Vous êtes sur RTL.
Je me suis extrait de la voiture pour essayer de sauver la vie de ma petite fille et de ma femme. Bon, elles ont été blessées, mais quand je suis sorti de la voiture, ils m'ont poursuivi. J'ai pu ramper derrière tous les véhicules qui étaient garés et sauter du mur sur le parking en contrebas.
Bonsoir, cette voix, c'est celle de Yves Manunta. Un an après ses paroles, il sera assassiné, son épouse paralysée, son fils contraint de vivre caché, sa fille devenue une témoin à charge dangereuse pour le grand banditisme, sera alors forcée, protégée par la police, une vie blindée, toute une famille forcée de vivre sous la menace, une menace de mort. Ce scénario semble tout droit sorti d'une série télé inspirée par la mafia italienne. Il n'est pourtant bien réel et il se déroule aujourd'hui même, non pas en Sicile, mais en Corse, non pas à Palerme, mais à Ajaccio. Malgré deux procès, cette affaire n'est pas terminée. Elle continue à susciter la peur, attise toujours de sombres désirs de vengeance et fait planer l'ombre de règlement de compte toujours possible. C'est cette incroyable histoire, celle de la famille Manunta, un agrenage criminel hors norme que je vais vous raconter ce soir, à l'occasion de la sortie d'un livre signé Marie-Françoise Stéphanie, intitulé « Une famille dans la mafia », une enquête édifiante qui, encore une fois et malgré les apparences, n'est pas une fiction, c'est une histoire vraie. Marie-Françoise Stéphanie est notre invitée ce soir pour évoquer ce dossier brûlant. Le dossier Manunta, une famille gênante dans le paysage corse. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime. On se retrouve tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, Jean-Alphonse Richard jusqu'à 21h sur RTL. RTL. 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, le dossier Manunta, comment toute une famille en Corse va se retrouver la cible de tueurs déterminés. Depuis plusieurs mois déjà, le père Yves Manunta vivait sous la menace. Contrat mis à exécution à l'été 2012. Ce 9 juillet 2012, Yves Manunta, un ancien nationaliste de 50 ans, quitte son appartement d'Ajaccio où il vit avec son épouse Angèle et ses deux enfants, Carla Serena, sa fille 10 ans, et son fils, Stefano, l'aîné. Depuis des mois, Yves Manunta est en guerre contre un associé dans une affaire, la Société Méditerranéenne de Sécurité, la SMS, qui intéresse beaucoup la justice. Le ton entre les deux ex-amis s'est durci. Manunta est peu à peu devenu un homme traqué, méfiant au point de se déguiser parfois pour sortir de chez lui. Il porte alors des lunettes de vue ou une perruque pour dissimuler son crâne rasé. Il ne sort jamais sans son gilet pare-balles. Dans le milieu, comme chez les policiers les mieux informés, on sait que Manunta est devenu un homme à abattre. Vers 15h, Yves Manunta enfourche son scooter pour aller au centre-ville. Il se rend chez son gestionnaire de fortune pour faire le point sur la nouvelle société de gardiennage et de sécurité qu'il a montée. Sent-il alors que le pire est en train de se dessiner ? Le fait est qu'il se demande ce que son travail deviendra s'il lui arrivait de disparaître. Manunta rencontre ensuite son avocat, puis vers 17h30, reprend le chemin de sa maison. Le cours Napoléon au cœur d'Ajaccio, puis l'étroite rue Rossi. Une voiture barre soudain la route du scooter, une dizaine de détonations claquent. Yves Manunta est touché par plusieurs impacts de chevrotine dans le dos et au thorax. Il est transporté à l'hôpital, mais les médecins ne parviennent pas à le sauver. Quelques minutes plus tard, la police est prévenue qu'une voiture est en flammes sur les hauteurs de la ville. Des résidents ont vu un homme s'enfuir. C'est l'incendiaire qui s'est brûlé dans sa fuite. Il a même perdu une chaussure et sa perruque. Le véhicule calciné est celui qui a servi à l'assassinat de Yves Manunta. Quant à l'incendiaire maladroit, il est vite rattrapé. C'est un petit délinquant local bien connu. Il s'appelle Nizar Fedaoui, un demi-sel employé pour une basse besogne et qui affirme alors que les deux hommes cagoulés l'ont forcé à brûler la voiture. Il s'est donc exécuté. Bonsoir Marie-Françoise Stéphanie.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à France 3 Corse et vous venez de publier « Une famille dans la mafia » aux éditions Plomb. Voilà donc pour la fin tragique de Yves Manunta, règlement de compte qui vient d'ailleurs après d'autres attaques, dont l'une très importante, mais qu'on va détailler dans le chapitre suivant de l'heure du crime, si vous le voulez bien. Tout de suite, un mot, Marie-Françoise Stéphanie, qui est la victime, Yves Manunta ?
Alors, Yves arrive Manunta à ce moment-là, comme vous venez de le dire, c'est un homme à abattre. Dans la petite ville d'Ajaccio, la rumeur enfle, Yves Manunta aurait commandité plusieurs assassinats, donc il est devenu un homme à abattre. Il porte des perruques, il ne sort pas jamais sans son gilet pare-balles, il loue des voitures de location pour changer de voiture chaque semaine. Lorsqu'il ne sort pas encadré par ses amis et qu'il attende au pied de son immeuble, et il se faufile dans la voiture et il se jette à l'arrière couché pour pas qu'on ne le voie. En fait, c'est un petit peu comme dans Le Village de Garcia Marquez, chronique d'une mort annoncée, parce que lui-même va même annoncer sa mort à c'est ses ça. Enfants qui ouais. ne veulent pas l'entendre. Ouais. Il va leur dire, mais vous verrez, quand je ne serai plus là, ça ne sera plus pareil.
Alors, c'est la vie d'un homme traqué, ça on le comprend bien. Il arrive presque au terme de l'exercice. Là, il est coincé presque de toutes parts. Et effectivement, ça se termine très mal pour lui. Un mot tout de même sur... c'est un ancien nationaliste. Bon, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais il a monté une société à une époque avec quelqu'un qui s'appelle Antoine Ivagioni. La fameuse SMS, dont on va beaucoup parler dans la chronique judiciaire et qui fera les choux gras de la justice. C'est devenu un homme d'affaires, c'est ça? Et il s'est fâché, avec son associé, c'est ça?
Oui. Yves Manunta, c'est un nationaliste reconverti dans les affaires. Il avait déjà échappé à la mort en 1996. Il avait gagné un surnom d'ailleurs, Robocop, parce qu'il avait survécu à 98 balles de pistolet mitrailleur.
98 balles.
Oui. Et donc, il se dispute avec son associé, qui est un nationaliste comme lui, un puissant chef d'entreprise, Antoine Ivagioni. Et autour de ces deux hommes, après cette dispute, les hommes vont tomber les uns après les autres. Les hommes qui gravitent autour de ces deux hommes vont tomber les uns après les autres. Alors ces hommes-là, en fait, ils sont proches d'un clan, le Petit Bar, qui continue à faire parler de lui aujourd'hui.
On ne va pas trop rentrer dans les détails parce que c'est compliqué.
Et de l'autre côté, donc les
voilà, c'est ça. Donc en tout cas, il y a une guerre des clans qui est ouverte. Et effectivement, Manunta se retrouve au milieu de cette guerre des clans. En tout cas, il fait partie, il est dans un camp désigné. Et donc, il va le payer de sa vie. Est-ce que à ce moment-là, évidemment, il y aura des épisodes précédents, mais est-ce qu'à ce moment-là, quand il décède, sa famille est également menacée, à Manunta Il y a toujours une pression sur sa famille déjà qui existe.
Effectivement, puisque 4 jours après l'assassinat de leur père et époux, la jeune Carla Sérène, qui a 10 ans, la fille d'Yves Manunta, son épouse, vont recevoir la visite de deux hommes grands et costauds. Ce sont ce sont des policiers du service de protection des hautes personnalités. C'est ces hommes qui protègent les présidents de la République, les stars ou les ministres. Et ils vont leur dire, écoutez, ils vont dire à la petite fille, voilà, il va falloir apprendre à vivre avec des gardes du corps maintenant, parce que nous estimons que des personnes peuvent attenter à votre vie. Vous avez, parce que cette petite fille va désigner,
bien sûr.
Aura désigné plutôt...
aura désigné effectivement des personnes qu'elle connaît. Donc ça veut dire qu'il y a une vie déjà de protection qui commence après cette mort, qui va être d'ailleurs un engrenage qui va durer pendant très longtemps. Tout le monde en Corse est au courant de cette histoire, qui fait beaucoup de bruit.
Oui, c'est Ajaccio est une petite ville, 60 000 habitants, beaucoup de gens se connaissent et cette histoire va faire beaucoup de bruit. Mmh. Effectivement, au mois de novembre, lorsque cette fusillade arrive au mois de novembre, la ville est vide et le bruit circule très vite. Voilà, on a tiré sur la famille Manunta et donc c'est... Et après la mort, donc cette petite fille va désigner deux hommes qui lui ont tiré dessus, qu'elle connaît. Et elle va donc, après la mort de son père, se retrouver sous protection policière. Alors c'est une vie quand même très particulière.
Dont on va d'ailleurs beaucoup parler dans cette heure du crime. Une vie très particulière, une famille protégée en Corse. La mort d'Yves Manunta était annoncée, redoutée depuis un an, depuis une première attaque manquée, où cette fois toute la famille avait failli être décimée. Le dossier Manunta, la famille qui gênait, c'est ce soir l'enquête de l'heure du crime. À tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime consacrée ce soir au dossier Manunta, une famille menacée de mort et placée sous haute surveillance en Corse. Dès l'année 2011, elle a failli périr sous les balles. Un an avant qu'il ne soit assassiné, Yves Manunta circule ce 8 novembre 2011 à Ajaccio. Il se sait menacé, il n'était pas prévu qu'il vienne ce jour-là récupérer sa femme Angèle et sa fille Carla Serena, 10 ans, devant un supermarché du centre-ville. La voiture d'Angèle est en panne. L'épouse monte côté passager, la petite fille sur la banquette arrière. À 18h45, la famille arrive chez elle, dans le quartier de Balestrino. La voiture se gare sur le parking de la résidence, aussitôt prise sous des tirs que des témoins diront être des tirs de Kalachnikov. Les balles fusent et transpercent la carrosserie, font éclater les vitres. Il y a, semble-t-il, au moins deux tireurs embusqués dans un recoin. Ils sont arrivés ici par un petit escalier menant un jardin et c'est par là qu'ils repartiront. La fusillade est intense. Angèle est touchée au bras. Un projectile lui transperce la cuisse et un autre vient broyer sa hanche. Elle restera handicapée. Sa fille, Carla Serena, est elle aussi touchée à un bras. Les balles de Kalachnikov ont déchiré la chair et fait apparaître les os. Yves Manunta est blessé aux chevilles, mais il sort de la voiture pour attirer à lui les tireurs qui vont arroser le véhicule jusqu'à l'arrivée des secours. Deux armes ont servi à l'assaut, un fusil de chasse calibre 12 mm chargé de chevrotine et une arme automatique de calibre 9 mm. Pas moins de 30 impacts sont relevés sur la carrosserie. Enquête ouverte pour tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une tentative en lien avec le banditisme, affirme d'emblée le procureur d'Ajaccio, Thomas Pison. Personne n'a aperçu les tueurs. Personne, sauf la petite Carla Serena, qui sur son lit d'hôpital est formelle. L'un des deux tireurs avait sa cagoule remontée. Elle a aperçu le visage d'un homme jeune qu'elle connaît depuis l'enfance. Un garçon qui joue au foot avec son frère Stefanou et venait parfois manger à la maison. Un certain Marc Pantalacci, qui a un frère jumeau, Dominique, une famille proche d'Antoine Nivagioni, le rival juré de Yves Manunta. Marie-Françoise Stéphanie, notre invitée ce soir dans l'heure du crime, avec votre livre « Une famille dans la mafia » qui vient de sortir. Alors, déjà, c'est une attaque assez curieuse, même en Corse, si j'ose dire, ou même en Italie. Il n'est pas dans les habitudes du grand banditisme ou de la mafia de tirer sur une famille, encore moins sur une enfant.
Non, c'est vrai, c'est ce qui va évidemment choquer beaucoup la population. Des dizaines de personnes vont accourir à l'hôpital. Mais dans cette période très tourmentée où les règlements de compte sont nombreux à Ajaccio, une femme a été tuée déjà au mois d'avril. Et un jeune enfant aussi a été tué dans une voiture dans laquelle il circulait avec son père. Mais en tout cas, ces meurtres, évidemment, ces attaques, évidemment, marquent beaucoup l'opinion. Parce qu'effectivement, toucher une femme, un enfant, ça reste quelque chose...
D'autant plus que Yves Manunta, on l'a entendu d'ailleurs au tout début de l'heure du crime, on a entendu sa voix, et d'ailleurs où il commente cette attaque, lui, il ne se cache pas, il dit « voilà, j'ai été attaqué », etc. Et la parole est assez libre.
Là, disons qu'il... C'est quelqu'un qui dit qu'il ne parle pas à la police d'habitude. Hein. C'est pas, il dit moi j'ai déjà essuyé des tentatives d'assassinat et je n'ai jamais parlé à la police. Mais cette fois, ce n'est pas pareil. Ils ont voulu attenter à la vie de ma fille et de ma femme. Ce n'est pas pareil. C'est pour ça que j'ai décidé de parler à la police.
Et il faut bien préciser que les blessures sont très graves hein, pour ces personnes qui sont à bord, hein, la mère et sa fille.
Pendant quelques heures, la jeune fille, il va être question à l'hôpital de peut-être amputer son bras, puisqu'elle s'est retrouvée sous les balles avec des billes rouges qui ont frôlé son crâne. Elle tenait la peau qui pendait du coude à la main comme une manche arrachée et effectivement elle va risquer l'amputation. Sa mère est transie de douleur et effectivement pendant un moment Le père va d'ailleurs croire que sa femme et sa fille ont perdu la vie.
Ont perdu la vie. En tout cas, c'était une attaque qui était évidemment faite pour tuer, qui visait le père de famille. Et puis, il y a cette histoire, c'est que la petite Carla Serena, elle a 10 ans, 11 ans à l'époque, elle est formelle, elle connaît au moins un des deux tireurs. Elle a vu son visage, elle le raconte. Alors, qui seraient, selon elle, ces tireurs présumés, les frères Pantalacci, qui sont-ils?
Alors, ce sont des jeunes qui ont l'âge de son frère. C'est pour ça qu'elle les connaît. Ils se connaissent. C'est vrai que ça, c'est important à Ajaccio parce que beaucoup de gens se connaissent, mais eux se connaissent vraiment. Ils vont à la plage ensemble. Son frère joue au footy-volé avec eux. Ils partagent même des vêtements. Enfin, ils sont très amis. Ils viennent manger à la maison. Et donc c'est pour ça qu'elle dit les reconnaître. Et ça, en revanche, c'est assez rare.
Bien sûr. Parce qu'en général, c'est la loi du silence qui prévaut. Oui. C'est l'omerta, hein, comme on dit. Hein, on ne dit pas ça. Mais en plus, là, c'est une petite fille. Donc il n'y a pas de raison qu'on ne lui fasse pas confiance.
Oui, c'est très rare qu'une petite fille se retrouve propulsée comme ça et devienne le témoin numéro un d'une telle affaire.
5 ans plus tard, et malgré la mort de son père, Carla Serena, la petite fille, va être sur le banc de la partie civile pour affronter le regard des deux hommes qu'elle a désignés comme les auteurs de la fusillade, les frères Pantalacci. Le dossier Manunta, une famille corse menacée de mort, toute seule face à la mafia. C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Heure du crime où nous ouvrons ce soir le dossier Manunta, des frères jumeaux accusés d'avoir voulu abattre toute une famille corse en novembre 2011 et qui comparaissent aux assises. En ce mois de novembre 2016, 5 ans après avoir failli perdre la vie dans une fusillade, Angèle Manunta et sa fille Carla Serena se présentent devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, à Aix-en-Provence. Le fils de la famille, Stéphanou, est également présent. Manque à l'appel le père de famille, Yves Manunta, abattu à Ajaccio en 2012. Rare procès dans une affaire en règlement de compte sur fond d'intérêt mafieux, où très généralement c'est la loi du silence, l'omerta, qui prévaut. Devant la cour d'assises, Carla Serena Manunta, désormais âgée de 15 ans, tient fièrement son rôle. Elle confirme avoir reconnu les jumeaux Pantalacci lors de la fusillade où elle et sa mère ont été grièvement blessés. Les deux hommes sont dans le box des accusés. Depuis cette fusillade, Carla Serena confirme que tout a changé dans la vie de la famille. Ses affirmations visant les jumeaux Pantalacci ont fait des Manunta une cible vivante. L'adolescente est protégée ainsi depuis 4 ans par le service de protection des personnalités. La police l'accompagne à chacune de ses sorties et jusqu'aux portes du lycée. Elle est devenue la témoin numéro 1 sous surveillance policière. Quand son avocat lui demande parfois comment elle vit cette situation, Carla Serena répond « Eh bien parfois j'ai envie d'être libre, mais je me dis que je préfère être en vie, sous protection, plutôt que d'y être passé, comme on dit. » Sur les faits, elle raconte « Je me suis retourné, j'ai vu deux hommes armés, fusils pointés vers nous, j'en ai reconnu un, sa cagoule était retroussée, il est dans le box. » Malgré ce face-à-face résolu, la cour d'assises juge le témoignage de l'adolescente insuffisamment probant pour établir la culpabilité des accusés. Les jumeaux Pantalacci sont acquittés. La famille est accablée. Tout ce chemin pour ça, entend-on sur le banc de la partie civile. 2 ans plus tard, les Manunta ne se déplaceront pas pour le procès en appel, toujours à Aix-en-Provence. Simulacre de procès, puisque celui-ci est renvoyé à une date ultérieure, encore non fixée à ce jour. Les jumeaux Pantalacci restent donc libres. Marie-Françoise Stéphany, notre invitée ce soir dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes journaliste et puis l'auteur du livre « Une famille dans la mafia ». Un mot sur ce premier procès. Vous êtes à l'époque à l'audience. Un impressionnant face-à-face, on peut dire les choses comme ça, entre cette petite fille, enfin cette adolescente désormais, et puis ces deux hommes dans le box des accusés.
Oui, un impressionnant face-à-face, parce que bon, le jour du témoignage de Carla Sérène, il règne une atmosphère d'avant-première à la cour d'assises. Tout le monde attend ce témoignage, se demande si cette petite fille va flancher ou pas. Eh bien, pas du tout, elle ne flanche pas. Elle les regarde dans les yeux et elle leur dit « Mais oui, c'est toi, Marc, qui était là ce jour-là. » Et le procès a été hors norme sur plusieurs points, c'est-à-dire que c'est un procès où les deux avocats principaux, aussi bien du côté de la défense que du côté de la partie civile, ont été visés par des tueurs aussi. L'un a été assassiné.
Avant le procès ?
Avant le procès.
Ah, d'accord.
L'autre a été blessé, mais il n'a pas retrouvé l'activité d'avocat. Donc, ce témoignage de la petite fille, ce contexte
de grande tension,
et des avocats qui ne vont rien lâcher, qui vont monter au créneau en permanence, qui vont questionner, interroger une enquêtrice pendant 7 heures, un réquisitoire qui sera suspendu à plusieurs reprises parce que les avocats de la défense protestent. C'est un procès hors norme sur plusieurs aspects.
Et cet acquittement qui, effectivement, c'est une catastrophe pour la famille Manunta. Ils attendaient qu'une condamnation.
Cet acquittement, oui, c'est une catastrophe. La jeune fille qui a 16 ans au moment du procès va ressortir en larmes. Elle l'avait dit au cours de son audition, elle avait dit « si ma parole n'était pas reconnue, ça ferait plus mal que les balles ». Et c'est ce qu'elle dira, ce qu'elle continue à dire aujourd'hui.
À dire aujourd'hui. Il va y avoir, alors là on va passer au deuxième procès, donc le procès qui est... On appelle, hein, mais qui va être interrompu et puis reporté au calendrier grec, puisqu'on n'a toujours pas la date à laquelle il pourra être ouvert, ce procès. À ce deuxième procès, il y a quelque chose d'important qui va se produire. Je crois que c'est le fils Manunta, Stefanou, hein, et qui ne sera pas là à l'audience, mais qui va adresser une lettre à la cour d'assises, lettre qui va faire sensation. Que dit-il ? Racontez-nous ce qu'il raconte à ce moment-là.
Alors, dans sa lettre, en fait, il reprend toute l'histoire donc de son père et il raconte pourquoi, en fait, selon lui, les hommes qui sont dans le box sont les personnes qui ont tiré sur sa famille ce jour-là. Mmh. Et il parle d'une façon très très ouverte, très très sensible. Il raconte d'abord cette souffrance de sa famille et en fait cette lettre va avoir un impact énorme pour ça, parce que en fait elle est adressée au président de la cour d'assises, mais lui va raconter la vie de sa famille, le passé de son père, sans fioriture, et c'est pour ça qu'elle aura un impact si fort.
Pourquoi Marie-Françoise Stéphanie, pourquoi ce deuxième procès tourne-t-il court comme cela? Pourquoi est-ce que ça s'arrête d'un seul coup?
Alors,
il y a ces incidents d'audience ou c'est...
Les incidents d'audience sont à répétition. C'est un procès où donc le témoin principal n'est pas là, puisque Carla Sérène a décidé de ne pas venir cette fois-ci après un premier acquittement. La famille dit ne plus faire confiance en la justice. C'est un procès où donc la principale enquêtrice aussi n'est pas là. C'est un procès où le juge d'instruction n'est pas là non plus. Donc pour la défense, ça fait beaucoup d'absents.
Mais pourquoi ? Parce que les gens ont peur ou...
Alors, certains témoins, c'est vrai, on le sent, c'est palpable dans leur témoignage, ont peur parce qu'ils se rétractent quand ils parlent de la voiture brûlée. Mais effectivement, on peut se demander pourquoi une enquêtrice refuse de venir à un procès pour une enquête qu'elle a menée de A à Z. Ensuite, un juge d'instruction, mais c'est vrai que c'est... On peut se demander pourquoi est-ce que c'est cette tension-là qu'ils n'ont pas voulu, à laquelle ils n'ont pas voulu faire face pour une nouvelle fois. Pour quelles raisons ? On voit bien qu'il y a une extrême difficulté à juger ce type d'affaire.
Dans tous les cas, une enquête et des procès qui n'aboutissent à rien. La famille Manunta ne sait pas si la justice passera un jour. Condamnée pour combien de temps ? Peut-être des années, à une vie sous haute surveillance. Le dossier Manunta, une famille corse menacée de mort par la mafia. L'enquête ce soir de l'heure du crime, on se retrouve dans un instant.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et ce soir dans l'heure du crime, le dossier Manunta, une famille corse qui a traîné devant la justice les deux hommes qui auraient voulu l'éliminer. Deux hommes acquittés et puis accusation qui se paie au prix le plus fort, celui d'une existence placée sous le signe de la menace. 9 ans, presque jour pour jour après l'attaque qui a failli leur coûter la vie, Angèle Manunta et sa fille Carla Serena vivent toujours à Ajaccio. Elles n'ont pas obtenu justice et les séquelles de l'attaque du 8 novembre 2011 sont plus que jamais présentes. Angèle souffre en permanence, son pied gauche est resté paralysé. Carla Serena a 19 cm de cicatrices sur le corps et il lui arrive encore de faire des cauchemars. À l'issue du premier procès des jumeaux Pantalacci, qu'elle avait désignés comme les tireurs et qui ont été acquittés, elle a finalement demandé l'arrêt de la protection policière, advienne que pourra. Le fils de la famille, Stefano Manunta, a lui préféré disparaître. Après la mort de son père, il avait lui aussi pointé du doigt d'éventuels coupables, donné des noms, faisant de lui une cible prioritaire. Il s'est donc exilé sur le continent, changeant fréquemment d'adresse, informant seulement sa mère, sa sœur et sa compagne du lieu où il se trouve. Quand il retourne à Ajaccio, c'est dans la quasi-clandestinité. Il reste calfeutré derrière une porte blindée sous l'œil des caméras de vidéosurveillance, au cas où un intrus tenterait d'entrer dans sa cachette, une espèce de cavale forcée, alors qu'il n'est pas recherché par la justice, seulement par les ennemis de sa famille. Marie-Françoise Stéphanie, notre invitée ce soir dans l'heure du crime. Alors c'est un cas de figure tout à fait exceptionnel, cette famille qui vit sous la menace permanente. Et encore aujourd'hui, comment vivent notamment la mère et sa fille qui vivent ensemble, je crois, à Ajaccio?
Alors, c'est très compliqué, puisque comme je vous disais tout à l'heure, Ajaccio est une petite ville, tout le monde se croise. Il arrive parfois que Carla Serena, lorsqu'elle se rend avec ses copines, avec ses amis dans des bars, elle peut croiser les frères Pantalacci. Et bon, évidemment, ça, des fois, ça se passe... difficilement, il y a des tensions. Lorsque la maman avait croisé la maman raconte dans le livre qu'elle croise les jumeaux Pantalacci lorsqu'elle se rend à la sécurité sociale et que ça se voilà que des mots sont échangés entre eux, des mots et elle essaye d'obtenir des aveux de leur part que eux eux ils ont toujours affirmé leur innocence, donc ça se passe de façon très tendue à chaque fois.
Bien sûr, il faut rappeler que les frères Pantalacci ont été acquittés et qu'on est toujours dans l'attente de ce procès en appel qui n'est toujours pas audiencé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui, cette famille Manunta, qui encore une fois vit plus ou moins sous protection, en tout cas je suppose se méfie, c'est compliqué, les sorties doivent être limitées, etc. Qu'est-ce qu'elle attend aujourd'hui? Elle attend que la justice passe? Elle espère?
Elle espère, mais par moments, elle n'espère plus trop, à vrai dire, parce qu'elle se dit abandonnée par la justice, abandonnée par la police, qui, selon cette famille, n'a pas joué son rôle, enfin le rôle qu'elle aurait dû jouer lors du deuxième procès, en étant présent. Donc ils se sentent abandonnés. Mais voilà, ils espèrent toujours quelque chose, mais en fait ils ne savent pas vraiment quoi, à vrai dire, parce que difficile aujourd'hui de savoir quoi espérer, alors que cela fait maintenant voilà, l'audience n'est toujours pas fixée, et ils se sentent vraiment abandonnés.
Est-ce qu'ils regrettent d'être allés si loin? Parce que il est rare tout de même que, dans ce genre d'histoire, on l'a déjà dit dans cette heure du crime, mais que la parole soit libérée. Finalement, en général, on garde le silence, c'est la loi de l'omerta qui prévaut. Est-ce qu'ils regrettent parfois d'être allés si loin, d'avoir désigné des coupables qui n'ont pas été punis et qui n'ont pas été condamnés, il faut le préciser?
Alors, regretter... oui... Enfin non, on peut pas dire qu'il regrette le fait d'avoir fait confiance à la justice aujourd'hui. Mais en tout cas, il y a cette peur qui est là, toujours présente. Angèle Manunta a fait placer des caméras de vidéosurveillance dans son hall d'entrée. elle n'est plus protégée par la police aujourd'hui. Et oui, elle dit qu'elle a peur, elle dit qu'elle elle apprend. Les assassinats se poursuivent en Corse et elle craint qu'un jour, ce soit de nouveau sa famille qui soit visée.
Il ne faut pas oublier qu'il y a son fils qui n'est plus en Corse, en tout cas qui vient de temps en temps de manière très, très fugitive et fugace. Alors lui, il a décidé de se protéger et de se faire oublier, c'est ça? Alors qu'encore une fois, il est poursuivi par personne. La justice ne le recherche pas, on est d'accord.
Non, s'il a quitté la Corse, c'est parce qu'il se sentait menacé, comme son père s'était senti menacé avant de mourir. Donc après la mort du père, c'est au tour du fils donc de se sentir menacé. Quelques jours après la mort de son père, des personnes sont arrêtées près de son domicile avec des armes dans le coffre, un talkie-walkie. Lui pense avoir échappé à un guet-apens lorsqu'il se rend à un rendez-vous. Il n'ira pas d'ailleurs parce qu'il craint d'être attendu. Et un jour, il décidera plutôt que... Il dira, je choisis la vie plutôt que la mort, et il décide de quitter la Corse. Il choisit une ville du sud de la France, puis un peu plus au nord, aujourd'hui.
Et donc, il est là, il est en cavale, finalement, permanente. Ça veut dire que ça veut dire quoi ? C'est une histoire sans fin, cette histoire de la famille Manunta ?
Lui, il dit avoir choisi une autre vie, aujourd'hui, pour... Et avoir choisi la vie plutôt que la mort. C'est pour ça qu'il a décidé de quitter la Corse.
Je vais encore vous poser une question, Marie-Françoise Stéphanie, pardonnez-moi, mais est-ce que vous avez reçu des menaces pour ce livre ? Parce que c'est un livre assez courageux, vous racontez une histoire qui est très sensible. Est-ce qu'on vous a dit de ne pas écrire tout ça ?
Écoutez, non, on ne peut pas parler vraiment de menaces. Ça fait partie un petit peu, je dirais, de l'exercice de ce genre de journaliste qui suit ce genre d'affaires. Mais évidemment, tout au long de l'enquête, oui, des personnes m'ont dit « Mais tu es sûre de ce sujet ? Pourquoi tu sais à quoi tu t'attaques ?» Ensuite, des personnes m'ont même dit une fois « Oui, on a tenté d'interdire la sortie de ton livre, mais finalement, on a choisi plutôt donc de te parler. » Non, on ne peut pas parler vraiment de menaces.
Merci beaucoup, Marie-Françoise Stéphanie, pour cette édifiante histoire, l'histoire d'une vie sous la menace. Votre ouvrage, Une famille dans la mafia, est paru chez Plon. Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation, Marc Bisset à la réalisation. Un grand merci à vous toutes et tous d'avoir partagé cette heure du crime. On se quitte un peu plus tôt ce soir, car il y a du foot sur RTL.